Cet après-midi à l'émission pour la chronique Info Justice Outaouais. On vous rappelle ce que c'est. Anciennement, on disait le Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Ça a changé de nom dernièrement. Info Justice Outaouais. Et comme d'habitude, c'est avec Maître Jade Barrière, avocate chez Info Justice, qu'on va discuter aujourd'hui. Jade, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Noël s'en vient, les parties de bureau, les parties en famille, entre amis, là, c'est dans l'horaire du mois de décembre. Alors aujourd'hui, on va parler de facultés affaiblies. Peut-être tout d'abord, nous en dire un peu plus sur les infractions qui sont liées à la conduite en état d'ébriété.
Oui, donc il y a plusieurs infractions criminelles qui concernent la conduite et l'alcool, mais de façon générale, il y a deux infractions qui reviennent souvent devant les tribunaux. Donc la première, c'est d'avoir conduit ou d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule avec un taux d'alcool excédant 80 mg d'alcool par 100 litres de sang. Donc, cette infraction-là vise à criminaliser le fait d'être au volant, alors que son taux d'alcoolémie est supérieur à la limite légale, même si on n'a pas de symptômes d'ébriété. Donc, par exemple, si une personne a une bonne tolérance à l'alcool et ne démontre pas de symptômes d'ébriété, elle peut quand même faire face à des accusations criminelles si elle a pris le volant alors qu'elle avait un taux d'alcool supérieur à 80 mg par 100 litres de sang. La deuxième infraction qu'on voit fréquemment, c'est celle d'avoir conduit ou d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule, alors que nos facultés sont affaiblies par l'alcool, et ce, peu importe le taux d'alcool présent dans notre sang. Donc, pour cette infraction-là, c'est les symptômes d'ébriété qu'on regarde, comme les yeux vitreux, la laine éthylique, les gestes désorganisés, les pertes d'équilibre. Donc, par exemple, une personne pourrait n'avoir pris qu'un seul verre et tout de même avoir les facultés affaiblies. Donc, en fin de compte, c'est pas le taux d'alcoolémie qui compte pour cette infraction-là, mais plutôt les signes physiques d'une intoxication par l'alcool. Puis, lorsqu'une personne a un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale et simultanément des symptômes apparents d'ébriété, elle peut être accusée des deux infractions en même temps, bien qu'en cas de culpabilité, elle ne sera punie que pour l'une des deux infractions.
Puis, quand tu parles d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ben en fait, il peut y avoir plusieurs circonstances qui peuvent mener à une garde et contrôle d'un véhicule. Donc, ça peut référer au fait d'être assis à la place du conducteur du véhicule, même si le véhicule n'est pas en marche ou s'il est en panne. Également, une personne peut être aussi en garde et en contrôle du véhicule si elle se trouve dans le véhicule, par exemple, endormie sur la banquette arrière, s'il existe une possibilité qu'elle puisse mettre le véhicule en marche. Puis également, dans certains cas, il peut y avoir une garde et contrôle si la personne se trouve à proximité du véhicule, par exemple, si elle le déneige ou qu'elle est en train de mettre des choses dans le coffre.
Donc, une personne pourrait se faire arrêter même si le moteur n'est pas en marche.
Effectivement. Donc, ce que le tribunal va vouloir déterminer pour évaluer si une personne a la garde et le contrôle du véhicule, c'est notamment s'il existe un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien que le véhicule soit mis en mouvement. Donc, le tribunal va alors prendre en considération plusieurs facteurs, dont par exemple le fait que la personne avait les clés sur elle, le fait qu'elle se soit servie de la radio, des phares du véhicule, du chauffage, de la climatisation, l'endroit où la personne était assise dans le véhicule et également que la personne avait un plan qui est bien établi, expliquant sa présence dans le véhicule et excluant la présence d'un risque réaliste de danger.
Okay.
Mais lorsqu'une personne est assise au siège du conducteur, la pente est plus difficile à remonter parce que la loi prévoit que ce simple fait est en soi une preuve qu'elle avait la garde et le contrôle du véhicule. Donc, il va revenir au conducteur de démontrer qu'il n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche et qu'il n'existait pas de risque réaliste de danger.
Puis comment est-ce qu'on en vient à se faire arrêter par les policiers pour une infraction qui est liée à la conduite avec facultés affaiblies?
Bien, la façon de conduire peut être un indicateur pour les policiers et inciter ces derniers à vérifier l'état d'un individu, notamment s'ils remarquent une conduite erratique. Les policiers peuvent également accumuler des soupçons en interagissant avec un conducteur après un accident de voiture ou encore après avoir arrêté un véhicule suite à une infraction au code de la sécurité routière qui n'avait initialement aucun lien avec la conduite avec les facultés affaiblies. Puis, une fois un véhicule immobilisé, les policiers, s'ils soupçonnent que le conducteur a consommé de l'alcool ou conduit avec les facultés affaiblies parce qu'il remarque des symptômes d'ébriété, des canettes d'alcool ouvertes, tout simplement parce que le conducteur admet avoir consommé de l'alcool, ils doivent vérifier la présence d'alcool en procédant aux épreuves de coordination des mouvements, en recueillant un échantillon d'haleine par appareil de détection approuvé. C'est ce qu'on appelle l'ADA ou, de façon plus commune, la balloune. Mm-hmm. Ou encore recueillir, dans certains cas, des échantillons d'une substance corporelle.
Puis est-ce que le conducteur est obligé de se soumettre à ces tests-là?
Absolument. Donc, un refus de tempérer a des conséquences qui sont sérieuses parce que le refus lui-même est considéré comme une infraction criminelle et une condamnation à un refus peut même entraîner des sanctions qui sont plus sévères qu'une condamnation à un chef de conduite avec les facultés affaiblies ou un chef de conduite avec plus de 80 mg par 100 ml de sang.
Puis est-ce qu'il y a aussi un test là, au poste de police là, après là, que ça s'est fait? Là?
En effet. Donc, si les policiers ont des motifs raisonnables de croire que le conducteur a conduit ou avait la garde et contrôle du véhicule, soit parce qu'il avait les facultés affaiblies ou parce qu'il a dépassé la limite légale, ils doivent lui ordonner de le suivre, de les suivre au poste de police pour fournir un échantillon d'haleine dans les kilomètres. Donc, les policiers procèdent alors à l'arrestation de l'individu et suspendent de façon immédiate son permis de conduire pour une période qui va aller de 24 heures à 90 jours selon la situation, en plus de saisir immédiatement le véhicule pour une période de 30 jours.
Puis à quelles sanctions est-ce qu'on peut s'attendre quand on se fait arrêter pour une infraction là, de ce genre-là?
Des sanctions assez sérieuses. Là. Donc, les conséquences pour ce type d'infraction criminelle-là sont non négligeables et entraînent toujours un casier judiciaire en cas de culpabilité. Donc, pour une première infraction de ce genre, si on est éventuellement reconnu coupable, on peut s'attendre à une amende minimale de 1 000 plus les frais de cour et la suramende, et une interdiction de conduire pour au moins un an, avec ou sans possibilité d'obtenir un antidémarreur, et d'autres sanctions en vertu du Code de la sécurité routière qui sont imposées par la SAC. Lorsqu'on parle d'un cas de récidive, donc pour une deuxième fois, si une personne est reconnue coupable d'une deuxième infraction, on va parler d'un emprisonnement minimal de 30 jours et une période d'interdiction de conduire d'un minimum de 2 ans. Puis pour toute condamnation subséquente, l'emprisonnement minimal sera de 120 jours et l'interdiction de conduire sera d'un minimum de 3 ans. Donc, je rappelle qu'il ne s'agit ici que de peines minimales, ce qui veut dire que, selon les circonstances, les sanctions peuvent être plus élevées, mais jamais en dessous des planchers décrits plus tôt. Donc, c'est également sans compter les frais liés à l'antidémarreur, aux augmentations de la prime d'assurance automobile et aux frais d'avocat et autres.
Donc, la morale de l'histoire, ben, on ne conduit pas après avoir consommé de l'alcool ou quand nos capacités sont trop affectées pour le faire.
Oui, puis prendre la route de façon sécuritaire en appelant un ami, un taxi ou un service de raccompagnement qui est disponible.
Puis si on a plus de détails là-dessus ou sur des questions sur plein d'autres choses, on peut vous appeler chez Info Justice Outaouais?
Absolument, on peut toujours nous rejoindre par téléphone au 819-600-4600.
Maître Jade Barrière, avocate chez Info Justice Outaouais, merci beaucoup puis on se reparle dans 2 semaines.
Merci, à la prochaine.